Alors pour moi, c'est un plaisir d'être de nouveau au milieu de vous, parce que il y a un petit moment que j'étais venu. Donc, si j'ai bien compris, c'est pas un message de prédication, c'est un message d'évangélisation. Donc, nous allons effectivement parler de l'Évangile, de parler effectivement de la puissance de Dieu. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je m'appelle Daniel Satori. Donc, je suis pasteur retraité. J'ai deux grands enfants, des très beaux enfants. Ma fille Lydie, qui a 44 ans, et le petit dernier, enfin, petit, qui est plus grand que moi, qui a 38 ans. Et j'ai deux petits-fils, Ethan et Méline. Et le petit-fils qui a 14 ans, et vous savez quoi? Il a une tête plus haut que moi. À 14 ans. Alors, vous voyez, quand il me regarde, il dit, ça va, papy? Je dis, oui, ça va. Voilà. Alors, voilà, écoutez, je veux tout d'abord, effectivement, eh bien, vous remercier. Vous remercier du fond du cœur, vous, les frères et sœurs, qui avez prié pour moi. Parce que nous allons parler, effectivement, du Covid-19. La fameuse pandémie qui a eu en 2020. Alors, je voulais vous remercier avant de commencer, vous qui avez prié, effectivement, pour mon épouse, pour moi, l'église, les frères et sœurs, vous qui avez pris des nouvelles de mon épouse, parce que moi, j'étais beaucoup plus loin que ça. J'étais à l'hôpital, bien loin, en coma artificiel. Donc, je veux remercier. Je sais que j'étais entouré de belles personnes, des personnes extraordinaires. Même mes collègues de travail de l'association Espoir, qui téléphonaient régulièrement à mon épouse pour avoir des nouvelles. On était vraiment très, très bien entourés. Surtout mon épouse, parce que moi, tout ça, je l'ai pas vu, hélas. Je l'ai pas vu. Mais je sais que vous avez beaucoup prié. Et parce que vous avez beaucoup prié, le Seigneur a entendu la prière. Et on verra ça plus loin. Comment le Seigneur l'a fait. Il a entendu la prière. Il a répondu à la prière. Alors aussi, merci aussi au corps médical. Parce que merci à l'hôpital de Fribourg, parce que j'étais transféré à Fribourg. Ensuite, je suis revenu à Mulhouse. Donc, merci au corps médical de Fribourg et de Mulhouse, parce que les personnes médicales étaient des personnes extraordinaires. J'étais entouré de belles personnes, des personnes qui m'ont motivé, des personnes qui m'ont encouragé, des personnes, des infirmières, des aides-soignantes qui étaient là, même des brancardiers qui étaient là et qui trouvaient toujours des mots qui étaient agréables et qui faisaient du bien. Donc j'avais affaire à des personnes qui étaient dévouées corps, âme, esprit dans ce qu'ils faisaient, des personnes extraordinaires. Et je crois que vous voyez, ça joue aussi. Parce que quand vous êtes 5 mois hospitalisé et que vous attendez de rentrer à la maison, que eux, vous les voyez partir, vous dites, mais moi, ça va être quand? Donc, ils sont toujours là, ils ont toujours eu les mots qu'il fallait, effectivement, pour m'encourager. Donc, j'étais vraiment béni. Je peux dire que vraiment, la bénédiction du Seigneur était sur tout ce corps médical. Et moi, je l'ai bien vu, que le Seigneur était présent, son onction était sur chacun d'entre eux. Alors, je veux vraiment remercier, effectivement, toutes ces personnes. Alors, comment ça a commencé? Eh bien, ça a commencé mars 2020, j'étais une personne qui était en bonne santé, sportif. Je courais 3 fois 10 kilomètres par semaine non-stop. Je marchais beaucoup, parce que j'aime beaucoup le sport. Je marchais beaucoup. Et je me souviens qu'un jour, je n'avais pas envie de courir. Je me sentais plutôt fatigué, épuisé. J'ai commencé à tousser. Et bien sûr, la fièvre a commencé à monter. Elle montait de plus en plus haut et je toussais de plus en plus. Très vite, la fièvre était montée. Et je me sentais vraiment très très mal. Et je commençais même à être inconscient. J'étais inconscient. Inconscient au point que mon épouse m'a raconté cela, parce que j'avais dépassé les 42 fièvres. Elle m'a dit, tu toussais tellement que quand tu mangeais, tu n'arrivais pas à manger, tu toussais, il y en avait partout dans la maison. Et elle m'a dit, écoute, je vais t'emmener chez le médecin. Et au moment où elle est montée pour se changer, moi j'ai pris la voiture et je suis parti chez le médecin. Et quand mon épouse a descendu, elle a eu peur, elle m'a dit, qu'est-ce que mon mari l'a fait? Il est inconscient, il est parti avec la voiture, mon Dieu, il y aura un accident. Ça, une véritable catastrophe. C'est-à-dire, j'ai fait à peu près 6 kilomètres, j'ai passé plusieurs feux rouges, plusieurs sens giratoires, à gauche, à droite, et je suis quand même arrivé chez le médecin. Et ça, je me rappelle pas. Et quand j'étais chez le médecin appelait mon épouse pour dire, écoutez, votre mari, il est chez moi. Il est totalement inconscient, ça tient du miracle, lui a dit. C'est un miracle qu'il soit là, qu'il n'a pas eu d'accident. Donc je le laisse plus partir, venez le chercher. Et effectivement, mon épouse, elle est venue avec mon fils et ils m'ont ramené. Et j'ai été testé positif. Je me souviens pas d'avoir fait un test. Elle m'a dit, tu étais même sous oxygène à la maison. Je me souviens pas que j'étais sous oxygène. Je me souviens rien du tout. Il y avait une semaine et quelques, j'étais inconscient, je n'étais plus là. La seule chose dont je me souviens, c'est que tout à coup, autour de moi, il y avait plein de personnes. J'ai appris que c'était le SAMU. Qu'il y avait plein de personnes, je voyais des gens, des espèces des ombres, des choses comme ça, ça bougeait un peu partout. Et qui étaient là. Elle m'a dit, il y avait au moins 7, 8 personnes qui étaient là, en train de te soigner, de préparer. Et j'ai juste entendu une voix qui m'a dit, venez avec nous, couchez-vous là. Et j'ai juste vu un espèce de drap blanc, et je me suis couché. Et je suis parti direction le Munch. Direction le Munch, à l'hôpital de Mulhouse. Alors, à l'hôpital de Mulhouse, là, ils m'ont mis en coma artificiel. Et le lendemain, heureusement, il y avait une dame qui était sage, une députée, Madame Brigitte Kimbler, quelque chose comme ça, qui était anciennement, effectivement, ministre de l'insertion, a eu la sagesse de demander de l'aide à l'hôpital de Fribourg. Ce qui fait que, encore une fois, là, c'est un miracle, j'étais l'un des premiers Alsaciens le lendemain transféré en hélicoptère à l'hôpital de Fribourg. Et le médecin m'a dit, heureusement que vous avez été transféré à l'hôpital de Fribourg, Monsieur Satori, sinon ici, à l'hôpital à Mulhouse, on vous aurait laissé mourir, parce qu'on n'avait plus de lit et plus d'appareil respiratoire. Donc j'étais l'un des premiers transférés à l'hôpital de Fribourg. Et on peut le voir peut-être sur la photo, l'Alsace, comme quoi j'étais effectivement transféré là-bas. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on peut éteindre la lumière, si on peut un peu mieux voir ou... C'est possible. Voilà, merci. Donc ça, c'est le journal. Effectivement, c'est parce que quand je me suis réveillé, donc ils avaient pris la photo, je ne savais pas qui pouvait prendre en photo, mais effectivement, vous voyez, j'étais dans un état quand même qui était un petit peu catastrophique. Alors, combien de temps j'étais dans le coma artificiel? J'étais à peu près 5 semaines dans le coma artificiel, en très grande détresse respiratoire. C'est-à-dire, c'est une machine qui faisait fonction de cœur et de poumon, qui a pris le relais. Parce que chez moi, c'était plus possible. Et qui me maintenait en vie. J'avais donc des saignements digestifs, donc j'ai bénéficié de 21 pochettes de sang. Et j'ai bénéficié aussi des globules parce que je n'avais plus assez de globules. Et bien sûr, aussi j'avais des saignements cérébraux. Donc il a fallu aussi faire le nécessaire pour effectivement nettoyer tout ce qu'il y avait là-haut. Il fallait pomper. Et puis bien sûr, la pandémie a continué son œuvre. Elle a attaqué mon rein droit, ce qui fait que pendant mon coma artificiel, j'étais donc dialysé. Tout ça sans, bien sûr, me rendre compte que j'étais effectivement dialysé. Alors, la question c'est, comment mon épouse a-t-elle vécu cela? Comment a-t-elle vécu cela? On peut peut-être passer encore la diapo 2 et 3, si vous voulez. Voilà, donc, voyez... Ça, c'est quand je me suis réveillé, il y a les infirmières, ils étaient contents parce quand quelqu'un sort du coma artificiel, c'est sûr que le corps médical, il est heureux parce que la plupart, ils partaient. Hein. Donc, ils étaient heureux. Alors, comment mon épouse a-t-elle vécu cela? Parce que c'est vrai que pour elle, c'était une chose terrible. C'est une tragédie, c'est une véritable pandémie, un tsunami qui arrive. Mon mari va mourir. Parce que l'hôpital de Fribourg lui avait dit à mon épouse, écoutez, madame, attendez-vous au pire. L'état de votre mari se dégrade de plus en plus. Ils l'ont averti d'avance. N'espérez pas grand-chose. Votre mari, c'est compliqué. On n'arrive plus à le réveiller. On n'arrive pas à le ranimer. On n'arrive plus à faire quoi que ce soit avec lui. On est juste en attente. Donc, attendez-vous au pire. Préparez ce qu'il faut préparer. Et c'est vrai que pour mon épouse, c'était terrible. Elle disait, mais mon mari, mais voyez-vous, ce qui est extraordinaire, c'est que, malgré cela, ma femme a été visitée, et moi j'ai été visité aussi dans mon coma artificiel. Malgré, face à cette tragédie, Dieu a visité l'un et l'autre. A permis que l'un et l'autre nous soyons visités et rassurés. Et mon épouse, qui comme chaque jour lisait la Bible, elle est en train de lire la suite de Job. Et là, elle est tombée sur Job 42. Et en lisant la Bible, Job 42, elle est tombée sur ce passage, verset 10, où il dit « Et l'Éternel rétablit Job comme avant ». Et mon épouse qui disait « Je lisais la Bible depuis des années », et tout à coup ce verset, c'est comme si ce verset sortait de la Bible, c'est comme si ce verset prenait forme, il prenait vie. M'a dit « C'est comme si Dieu me parlait directement, et l'Éternel rétablit Job comme avant ». Et là, mon épouse avait compris qu'elle allait retrouver le mari d'avant. Alors que j'étais encore dans le coma artificiel, qu'elle allait retrouver le mari d'avant. Et à partir de là, mon épouse, elle était en paix. Elle était en paix. Elle dormait tranquillement. Et quand l'hôpital lui disait, « Madame, voilà, on vous dit, votre mari, ça s'arrange pas. On n'arrive pas à le réveiller. » Mon épouse disait, « Mon mari reviendra à la maison comme avant. » C'est-à-dire le mari qui court, le mari qui marche, le mari qui conduit comme avant. Et le mari, il n'était pas encore comme avant. Il était encore comme ça. Il était encore comme ça. Elle était rassurée. C'était la parole de Dieu qui lui parlait. C'était le réma qui lui parlait. C'était direct. Elle a dit que ce que j'avais reçu de la part de Dieu, personne n'aurait pu me l'enlever. Personne n'aurait réussi à me faire douter de ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Voilà comment mon épouse a été visitée. Malgré ce que les médecins lui ont dit, on lui a même dit à mon épouse, écoutez, madame, puisque vous voulez pas d'acharnement thérapeutique, alors on va engager le pronostic vital. C'est-à-dire que si votre mari d'ici quelques jours ne se réveille pas, on arrête tout parce qu'on ne peut plus rien faire. On a fait tout ce qu'il fallait et je crois qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait les médecins. Et donc le pronostic vital était engagé, était mis en place. Et bien sûr. Mon épouse a été visitée et moi aussi j'ai été visité dans mon coma artificiel. J'ai fait deux rêves, j'ai fait des beaux rêves. Mais deux rêves, un, j'ai pas trop compris, mais le deuxième, j'ai eu la réponse. Le premier rêve que j'ai fait, j'ai rêvé que il y avait des frères et sœurs qui sont venus me voir et qui sont venus me dire, écoutez, nous n'avons plus de berger. Je dis, ah bon, vous n'avez plus de berger? Non, nous n'avons plus de berger. Mais je dis, qu'est-ce qui se passe? Ben, le couple pastoral est décédé. Je dis, ah bon, il est décédé. Alors, je dis, écoutez, je vais pas vous laisser sans berger. Et je me souviens que, là, j'ai pris cette église en main. J'ai pris cette église en main, et j'ai prêché l'évangile, j'ai fait des études bibliques, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et à un moment, l'église vient me voir, mais dit, écoutez, frère, est-ce que vous voulez pas faire une étude biblique sur les 12 tribus d'Israël? Ben, je dis, oui, pourquoi pas? Et moi, là, dans mon rêve, j'étais parti en Israël. Je dis à ma femme, tu vois, j'ai voyagé gratos. Je suis parti en Israël et je suis allé voir, eh bien, chacun des tribus d'Israël pour poser des questions, pour préparer mon étude biblique sur la tribu d'Israël. Et en même temps, j'ai demandé, mais ce couple pastoral, il s'appelle comment? Ils m'ont donné leur nom. Et je me permets pas de leur donner leur nom parce qu'ils existent encore pour éviter les interprétations. Voilà. Mais ils existent encore. Donc, j'ai pas compris le sens de ce rêve. Mais, quelque part, c'est Dieu qui m'a visité et qui m'a fait du bien. Le deuxième rêve que j'ai fait, lui, par contre, j'ai compris la signification. J'ai compris la signification, ce que le Seigneur voulait vraiment me dire. J'ai rêvé que j'étais en train de mourir. J'étais couché, j'étais en agonie, et j'étais là, tout nu, comme un enfant dans le ventre de sa mère, et je me voyais partir. Je me voyais partir, mais voyez-vous, ce qui est extraordinaire, mes frères et mes sœurs, ça me fait penser au passage de la Bible, le psaume 23 qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Je me voyais partir, mais qu'est-ce que j'étais en paix. Qu'est-ce que j'étais en paix. Et tout à coup, j'ai vu autour de moi, une multitude d'hommes et de femmes de toutes nationalités qui étaient là. De toutes nationalités. Une foule immense à perte de vue. Et moi, j'étais couché en train de partir tout doucement. Et au fond, tout au fond, j'ai vu tout à coup des ténèbres. Et je savais ce qu'il y avait derrière ces ténèbres. Je savais qu'il y avait Satan, qu'il y avait ses démons. Et d'un seul coup, je vois que tout à coup, le diable essaie de m'envoyer des flèches en ma direction. C'est-à-dire, pour m'achever, pour terminer cette œuvre, j'étais en train de partir tout doucement, j'étais en train de mourir, et c'était pour achever cela, pour mettre un terme à cela. Et au moment où ces flèches allaient me toucher, tout à coup, cette multitude d'hommes et de femmes de toutes nationalités s'était levée, ils avaient tous un bouclier, et sont venus vers moi, et ils m'ont protégé. Et toutes ces flèches se sont heurtées contre le bouclier et pas une seule flèche m'a touché. Et j'ai compris que c'était la prière des frères et des sœurs. J'ai compris cela, que c'était la prière des frères et des sœurs qui avaient effectivement prié, qui avaient prié pour moi, afin que vraiment, eh bien, le Seigneur, il agisse. Et c'est ce que le Seigneur, il a fait. Il a agi. Il a agi au plus profond de moi. Le pronostic vital était engagé. Effectivement, ils ont fait comme ils ont dit. Ils m'ont débranché. C'était fini. Et au moment où ils m'ont débranché, je me suis réveillé. Et mon épouse a dit, tu sais quand est-ce que tu t'es réveillé? Elle m'a dit, c'était clin d'œil de Dieu. Je me suis réveillé à Pâques. C'était vraiment le clin d'œil de Dieu. C'était la prière des frères et sœurs. C'était la prière de l'Église. Je me suis réveillé. Voilà. Alors, bien sûr, quand je me suis réveillé, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réalisé que j'avais beaucoup de monde autour de moi. Beaucoup de monde qui était là autour de moi, des médecins, tout ça. J'ai réalisé cela. Mais voyez-vous, quand je me suis réveillé, ce qui était bien, extraordinaire, je me voyais bien que je bougeais pas. Il n'y avait aucune panique en moi. Je sentais quelque chose qui me disait, ne crains rien, mon esprit, il est là. Il est sur toutes ces personnes. Et c'est vrai, je sentais l'esprit de Dieu qui était présent là où j'étais, à l'hôpital de Fribourg, dans ce bloc où j'étais, il y avait la présence de Dieu. Je le sentais fortement. Il n'y avait pas de panique. Il y avait une grande paix intérieure. Il y avait une forte paix intérieure. Je me sentais comme soulevé. Je me sentais vraiment comme visité et je pouvais dire que ce que je le recevais d'en haut. J'étais comme ça, mais mes frères, mes sœurs, j'étais l'homme le plus heureux du monde, comme ça. Parce que ce que j'avais à l'intérieur était plus grand que ma souffrance. Parce que beaucoup de gens, le bonheur dépend des circonstances extérieures, de ce qu'ils ont, de ce qu'ils arrivent à acquérir. Mais moi, j'avais rien, j'étais juste comme ça. Mais ce que j'avais, c'était d'une richesse grande et immense. Que ça ne m'aurait pas dérangé de rester comme ça toute ma vie, parce que ce que j'avais, c'était beau. Ça venait d'en haut. C'était céleste. Ça venait du ciel. Ça venait de Dieu. Il y avait une grande paix en moi. Il y avait tellement une grande paix en moi que quand ils ont téléphoné à mon épouse pour dire, écoutez, votre mari s'est réveillé, elle m'a dit, comment il est votre mari? Ben écoutez, il est souriant, tout le monde veut s'occuper de lui. Voyez comment Dieu prend soin de chacun d'entre nous, comment Dieu veille sur chacun d'entre nous. Dieu, effectivement, il est celui qui m'a gardé. Et ça me fait penser, vous savez, à Philippiens chapitre 4, verset 7, qui dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer, toute intelligence, dont on se pose des questions. Mais comment c'est possible que cet homme peut être heureux dans la situation qu'il est? Comment cet homme peut être possible? Il peut être heureux dans l'handicap qu'il est? C'est pas possible. Si, c'est possible, parce qu'elle vient d'en haut, cette paix. Et celui-là, tel qu'il est, comme il est l'homme le plus heureux du monde que celui qui court ou quoi que ce soit. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence dépasse tout entendement humain. Tout entendement humain. Vous savez, les médecins, ils m'ont dit, la plupart, quand ils ont vu mon dossier, ils m'ont dit, Monsieur Satori, à rapport à votre dossier, vous n'êtes pas un miraculé, mais vous êtes un ressuscité. Quand ils ont vu mon dossier, m'a dit, vous êtes à ressusciter. Et la plupart des médecins m'ont demandé l'autorisation de photocopier mon dossier parce que ça les intrigue, ça pose question, comment cela est-il possible? Il y a même un médecin, il y a 2 mois de ça que j'ai vu, et il m'a dit, Monsieur Satori, félicitations. Je dis, pourquoi docteur? Il m'a dit, écoutez, C'est la première fois de ma vie, de toute ma carrière, que j'ai en face de moi un ressuscité. C'est la première fois que de toute ma carrière que je vois ça. Alors c'est vrai, quand je me suis réveillé, mon âme était en paix. Et je voyais bien que je n'arrivais pas à bouger. Oui, j'avais une tétraparésie sévère, c'est-à-dire une tétraparésie, vous savez, vous prenez un élastique, il est tendu, vous avez tout le muscle, et quand il n'y a plus de muscle, moi c'était très sévère, il n'y a plus de muscle. L'élastique, il est là, comme ça. Et donc, je ne pouvais pas bouger mes mains, rien faire. Même pour parler, j'avais du mal à parler. Et c'est vrai que les infirmières devaient tout faire à ma place. On devait me laver, on devait me donner à manger, on devait tout faire à ma place. Quand mon épouse me téléphonait, j'avais un petit téléphone, l'infirmière devait le mettre à mon oreille et tenir pour que je puisse parler à mon épouse, pour que je puisse m'entretenir. Parce qu'effectivement, je ne pouvais absolument rien du tout faire. Alors, à quel moment je suis venu en France? Parce qu'après, je me suis réveillé, j'ai fait un peu de rééducation, j'attendais de venir en France de nouveau et pour commencer à faire la rééducation. Alors, je suis venu en France début mai. J'étais transféré à l'hôpital de Mulhouse, au Munch. On peut mettre peut-être la photo suivante. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, vous voyez, les médecins, ils étaient très gentils. Mon épouse n'avait pas le droit de venir, c'était compliqué, pas le droit de venir à cause du Covid. Et le corps médical était très très gentil. Et je sais que la cadre de ce service était une chrétienne. Alors ce qu'elle a fait, pour dire à mon épouse, regardez, votre mari est en France, on va s'occuper de lui. J'étais dans ce service au Munch, et je me souviens que ils m'ont pris, c'est un treuil qui m'a pris, parce que j'arrivais pas à bouger, et le treuil m'a porté, et puis là, ça a roulé, et ensuite ils m'ont mis dans une chaise, dans un espèce de fauteuil, et ils ont positionné mes mains et mes pieds, tout positionné, voilà, on va mettre comme ça, parce que moi j'arrivais pas à bouger. Et m'expliquait, me disait, on avait essayé de mettre une sonnette, pour vous appuyer, pour nous appeler, mais vous n'arrivez même pas à bouger, alors on a mis un scotch, on a tout mis, tout ce qu'il fallait au cas où, mais rien. Il n'y a rien qui bougeait. Alors elle dit, j'ai couru tous les services pour trouver un appareil qu'on peut mettre dans la bouche pour que vous puissiez appeler si vous avez besoin de nous. Il n'y avait rien qui existait. Il fallait chaque fois que je crie pour qu'ils viennent. Et donc, ils ont mis effectivement ça et ils m'ont mis là-dedans. Et donc, vous voyez, j'ai bien maigri, mais ça allait déjà mieux. Vous voyez, j'étais déjà un petit peu assis. Voilà. Et ça, c'était pour l'envoyer à mon épouse pour dire, regardez, votre mari, il est là. Alors, bien sûr, mes journées à l'hôpital étaient bien occupées. Chaque fois une demi-heure. Chaque fois, il y avait un intervenant au niveau du demi-heure, donc j'étais bien occupé. J'avais ergothérapeute, psychomotricité, activité physique, kinésie, orthophoniste, bilan neurologie, suivi psychologique. Enfin, voilà, j'avais 7 ou 8 personnes chacun qui intervenaient une demi-heure. Et l'objectif, eh bien, c'était de donner vie à ce corps qui était inerte. J'étais couché. Et je me souviens que le kiné, il est venu la première fois et il me dit, bougez les mains. Et j'ordonne à mes mains de bouger. Rien du tout. Levez les pieds, j'ordonne rien du tout. Il n'y a rien qui bougeait. Et il fallait toujours me donner à manger, toujours donner à boire. J'avais une grosse Bible là, j'avais même une petite Bible. Je la regardais, mais je ne pouvais pas la bouger. Je ne pouvais pas. Mais je sais qu'une chose, même si je ne pouvais pas la lire, Dieu me visitait. Et j'ai eu des temps très forts avec le Seigneur, des visitations du Saint-Esprit où il y avait des larmes de joie, où je pleurais. Il y avait des larmes de joie qui me réconfortaient, qui me parlaient, qui me faisaient du bien. Et je me souviens que le kiné, il prend ma main et il fait ça, il commence à prendre mes mains, à lever les jambes, à faire ça, des activités. Et ça régulièrement. Et chacun intervenait. L'ergothérapeute, elle venait aussi faire ce qu'il fallait. L'orthophoniste, elle me faisait souffler dans une paillette pour émettre des sons, pour apprendre de nouveau à parler, pour de nouveau avaler, parce que j'avalais beaucoup de liquide, pour fortifier tout ça. Donc chacun venait. Et je me souviens qu'un jour, je commençais à bouger tout doucement la main. Tout doucement. Et voyez-vous, avec tout ce que je vivais, je trouvais que c'était extraordinaire. Parce que ces temps forts que je vivais avec le Seigneur, ça me faisait penser à un passage, vous savez, dans Isaïe chapitre 43, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu marches dans le feu, les flammes ne te submergeront pas, ils ne te brûleront pas. » Et ça, j'étais en train de le vivre. Et un jour, tout à coup, je réalise que je peux faire ça. Je peux faire ça. Et je dis au kiné, regardez. Et j'arrive tout doucement à bouger. Et j'étais heureux. Et là, je sentais dans mon cœur quelque chose qui me disait, moi, j'étais rétabli, mais la kiné, maintenant, c'est ton ressort. Et comme j'étais pressé de rentrer à la maison, je me suis dit, mon gaillard, maintenant, la kiné, c'est une fois tous les jours, chacun une petite demi-heure par jour, mais on va accélérer le processus. Et moi, le soir, vers les 9h, quand les infirmiers étaient partis me donner les piqûres et tout ce qu'il fallait, le traitement, de 9h jusqu'à minuit, j'ai dit, allez, tu vas faire 50 comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, allez, 50 de l'autre, allez, hop là, tu vas lever la jambe, allez, on va jusqu'à 10, c'est pas grave, ouf, t'es fatigué. Et comme ça, tous les jours, pour accélérer le processus, parce que j'étais pressé de rentrer à la maison. Et donc, j'ai continué ces activités. Et mes progrès, effectivement, étaient de plus en plus importants. Et de plus en plus, effectivement, je bougeais de mieux en mieux. De mieux en mieux. Et finalement, ça a donné du résultat. Et petit à petit, de nouveau, je commençais à bouger de mieux en mieux. J'arrivais à tenir un peu plus longtemps. J'arrive à faire encore plus de mouvements. Ça allait encore de mieux en mieux. Et je progressais, effectivement. Et je me souviens aussi que l'ergothérapeute, elle était venue. Elle m'avait donné des feuilles A4. Parce que comme je bougeais de mieux en mieux, eh bien, il a fallu travailler l'écriture. Et j'avais des feuilles A4. Et là, il fallait écrire A. I, O, U, pas dépasser la ligne, comme l'école primaire. J'ai dû réapprendre à écrire. J'ai dû reprendre à parler. J'ai même dû travailler ma mémoire. Quand je commençais à aller beaucoup mieux, je recevais mon épouse à la télé, au téléphone, donc j'écrivais ce que je mangeais pour progresser. Mais je savais plus comment écrire purée, carotte. Donc je disais à mon épouse, comment tu écris purée, comment tu écris carotte. Et alors j'essayais de me remémoriser effectivement le repas afin de le garder en mémoire, parce que ma mémoire, elle a pris un coup. Et je le remémorisais 50 fois, le soir tout à coup, je me souvenais plus de ce que j'avais mangé. Je me rappelais plus. Donc j'essayais de travailler même ma mémoire. Et la preuve que mes progrès étaient tellement évidents, que comme chaque jour, j'étais assis dans mon lit, l'infirmière, elle vient me voir et elle me dépose le plateau. Et là, elle me dit, écoutez, monsieur Satori, j'arrive tout de suite, j'ai une urgence et après je vous donne à manger. Et l'infirmière, elle est partie et je regarde le plateau. Et à un moment, qu'est-ce que je fais? Avec ma main, je prends la fourchette et je pique et je lève. Et n'arrivant pas assez bien, je prends l'autre main pour lever et baisser la tête. Et l'infirmière qui rentre, elle dit, oh là là, monsieur Satori, vous faites pitié, attendez, on va s'occuper de vous, ne vous inquiétez pas. Et j'ai dit à l'infirmière, non, laissez-moi faire, c'est la kiné. Le fait de faire tout ça, c'était pour travailler. Oh, il y en avait plein à côté, mais c'est pas grave, c'était la kiné. Et je bougeais donc de mieux en mieux qu'au point qu'après, toutes les séances de kiné, tout ergothérapeute, psychomotricité, activité physique, tout, je le faisais dans le fauteuil. Je faisais tout dans le fauteuil. Je n'étais plus dans le lit allongé, inerte, je bougeais de mieux en mieux. J'allais de progrès en progrès, de progrès en progrès. Et donc, tout ça après, je le faisais effectivement dans le fauteuil. je commençais à bouger de plus en plus, jusqu'au jour où le kiné est venu avec un déambulateur, hein, on peut faire la suite, avec le déambulateur, le kiné était venu, voilà, avec le déambulateur, et il vient, et il me dit, vous allez vous lever, monsieur Satori. Oh là là, j'étais pris de panique. Vous allez vous lever, et je vais vous aider. Et il m'a aidé effectivement, le kiné, il m'a aidé à m'asseoir au bord du lit, et voilà que je me lève, il m'aide à me lever, et me disait, cramponnez-vous au déambulateur. Et là, on va juste compter jusqu'à 10, vous allez rester comme ça, jusqu'à 10. Et ensuite, vous allez vous rasseoir. Et c'est vrai que, quand j'ai fait ça et resté jusqu'à 10, croyez-moi, j'étais très, très fatigué. J'avais qu'une seule hâte, m'allonger. Je n'en pouvais plus. Rester comme ça, debout, droit, n'ayant plus de muscles ou très peu de muscles, et rester comme ça jusqu'à 10, je voulais que les 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, hein, voilà. 1, 2, c'était très, très compliqué. Et ça, régulièrement, tous les jours, on le faisait. Et donc, mes progrès étaient tellement évidents que finalement, eh bien, toutes les séances, en fauteuil roulant, j'allais dans les services adaptés et non plus dans ma chambre, j'allais dans les services adaptés, tout ce qui est kiné, ergothérapeute, activité physique, psychomotricité et ainsi de suite, dans les services en bas adaptés et plus dans la chambre. Et pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que petit à petit, je voyais que je faisais des progrès. Je faisais des progrès. Là, avant, il était inerte. Maintenant, il commence déjà un tout petit peu à bouger. Maintenant, il est déjà dans le fauteuil. Et maintenant, il commence déjà à faire des activités en bas. Et pour moi, c'était déjà, effectivement, je commençais à voir clair et à voir. Vous savez, c'est pas facile quand j'avais une fenêtre et que je voyais les enfants qui couraient et que moi, j'étais là, inerte, en train de regarder les enfants qui courent dans la cour. Et que vous voyez ça, vous dites, Seigneur, vivement aussi que moi, je cours. Vivement aussi. Et donc, toutes ces activités, effectivement, je les faisais. Et, bien sûr, j'ai commencé à faire mes premiers pas. On peut voir la photo numéro 6 ou 5. Mes premiers pas. Alors, c'est une vidéo de FR3. C'est donc la directrice qui parle.
Puisque nous avons accueilli des patients qui sortaient des unités de soins intensifs.
C'était mes premiers pas.
Extrêmement fragiles, et sont allés vers nos...
Je marchais, je tenais un peu mieux.
Vers nos services d'hospitalisation plus habituels.
Je faisais que la moitié.
L'hospitalisation a été aussi la fermeture de l'hôpital du jour. Donc nous avons recentré nos ressources vers tout ce qui était hospitalisation.
Donc voilà, c'était les barres parallèles. J'ai fait les premiers pas, il y avait FR3 qui avait filmé ça, et j'ai fait que la moitié, hein. C'est des barres qui font 3 mètres, moi j'ai fait 1m50, et après il fallait me rasseoir.
Le Covid comme les atteintes respiratoires, la fatigue, sa sensibilité aux infections, et ce qui est lié à ce qui a été
voilà.
La réanimation.
Ça c'est d'autres personnes qui ont été filmées. Voilà, donc c'était mes premiers pas, effectivement la barre parallèle. Et après, bien sûr, par la suite, comme mes progrès devenaient de plus en plus évidents, je commençais à faire du vélo. Avec le déambulateur, ça allait mieux. Je commençais à faire déjà quelques pas. Et après, au point que je commençais à marcher avec des béquilles. Bien sûr, toujours le fauteuil à côté, le kiné qui me suivait pour m'asseoir, parce que j'étais très, très vite fatigué. Mais j'ai commencé effectivement aussi au niveau des béquilles. Et de plus en plus. Et bien sûr aussi, ma mémoire, eh bien, on l'a travaillé aussi. On mettait des choses en place pour au niveau de ma mémoire pour qu'il y avait des progrès. Et donc c'est vrai que mes progrès étaient tellement évidents que je me souviens après je commençais à me promener eh bien dans le service avec bien sûr le fauteuil. C'est moi qui poussais le fauteuil. Hein. Avant c'était lui, mais maintenant c'est moi qui poussais quand j'étais fatigué. Je m'assieds, mais je faisais des pas. Voilà, de mieux en mieux. Au point que je suis sorti de l'hôpital le 10 juillet. Je suis sorti de l'hôpital 10 juillet 2020. Je suis rentré chez moi. Bien sûr, toujours avec le fauteuil roulant et aussi avec le déambulateur et les béquilles. J'avais toujours un suivi médical. J'étais toujours suivi par le MUTCH. J'allais souvent là-bas 3 fois par semaine pour continuer les activités physiques et tout ce qu'il faut. Et moi, bien sûr, pour accélérer, chez moi, j'avais un fauteuil, un tapis roulant. Et je me souviens que je suis monté sur ce tapis roulant et j'ai mis vitesse 1. Mon épouse était à côté. J'ai mis vitesse 1 et j'ai marché. J'ai fait une distance 50 mètres. Et chaque jour, je notais mes progrès et je persévérais. Chaque fois que je rajoutais de nouveau 20 mètres, 10 mètres, ainsi de suite. Et avec mon épouse aussi, avec le fauteuil roulant, je marchais. Elle me poussait. De temps en temps, je sortais, elle était avec moi et je poussais et je marchais. De plus en plus, je prenais des distances. Et de plus en plus, mes objectifs étaient toujours plus loin. Je notais sur le fauteuil roulant, ah, j'ai fait 500 mètres. Allez, vitesse 1. Voilà. Et comme ça, je faisais de plus en plus des progrès au point que, effectivement, eh bien, à un moment, je commençais à marcher tout seul. Que par la suite, eh bien, j'ai rendu le fauteuil roulant. Après, j'ai rendu les béquilles. Et je commençais donc à marcher chez moi tout seul. Alors bien sûr, c'était pas des grandes distances. Je faisais 500, 600 mètres. Papa. Et après, je sentais que j'étais fatigué. Je rentrais chez moi. Mais voyez, ces objectifs, je les faisais de plus en plus et ça montait de plus en plus. À ce jour, c'est vrai. Maintenant, eh bien, j'ai de nouveau mon permis. J'ai récupéré mon permis parce que je l'avais supprimé à cause de ça. Et j'ai tout rendu. Plus de fauteuil, plus d'ambulateur, plus rien. Plus rien du tout. Voilà. Et à ce jour, eh ben, il m'arrive de courir 10 kilomètres non-stop. Il m'arrive de courir 10 kilomètres non-stop, de marcher 12, 13 kilomètres à pied, vitesse commando, vous voyez, hein. Donc, voilà, j'ai tout récupéré, hein. Et c'est vrai que les médecins ne comprennent pas avec ce que j'ai vécu. J'avais commis un Covid très, très violent, qui n'a pas autant de séquelles. J'ai un frère qui est neurologue au Munch et qui m'a dit qu'il a vu mon dossier et mon dossier est classé dans les cas très très rares. Dans les cas très très rares. On est deux qui avons eu un Covid aussi violent et il m'a expliqué tu es un des seuls qui a tout récupéré. Il y en a un qui l'a eu moins violent et encore de grands problèmes. Il y a donc vraiment une grâce particulière. Il a eu une grâce particulière. Alors c'est vrai que oui, ce sont des choses positives. Comment j'ai vécu cela? Moi, je l'ai vécu positivement. Et mon épouse aussi. Je l'ai vécu positivement. Vous savez, ça me fait penser à Joseph. À Joseph qui était jeté en prison pour une faute qu'il n'avait pas commise. Lui qui était bien avant, qui était serviteur, il a été mis en prison pour une injustice. Mais la Bible dit que l'Éternel était avec Joseph. Et je sais que là, ce que je passais, je savais que Dieu était avec moi. J'étais descendu, Dieu a permis que je descende, mais je suis remonté. Et ce que j'ai vécu, c'est comme si, c'est un tremplin, c'est comme si Dieu m'avait projeté plus loin. C'est comme si Dieu avait permis que cette expérience que je vis, c'était pour m'emmener plus loin. Et ça m'a fait penser, vous savez, à Job qui a dit, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Et ça m'a fait penser à ça. Et c'est ce que j'ai vécu. Et mon épouse aussi, elle a vécu. Mon épouse, elle a cité un verset dans la Bible que j'ai beaucoup aimé, qui disait, il y avait un passage dans Agée, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Et c'est vrai, j'ai l'impression que c'est comme une seconde vie, ce qui vient de se passer avec moi, entre moi et le Seigneur. C'est comme une seconde vie. Donc, toute épreuve dont on n'est pas responsable, il y a une bénédiction à en tirer. Ne soyez pas négatif. Il y a une bénédiction. Toute épreuve qu'on peut passer, toute épreuve qu'on peut vivre, si nous ne sommes pas responsables, Dieu est avec nous et Dieu nous accompagne et Dieu nous parle et Dieu nous soutient et Dieu nous fortifie et Dieu nous garde. Et même s'il y a des épreuves dont nous sommes responsables, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne pas. Il est dit que même si, effectivement, on est responsable, Dieu est celui qui nous garde. L'amour qu'il a pour nous est un amour éternel. Et donc, même si on a fait des erreurs, Dieu nous bénit Mais ensuite, il faut en prendre une leçon, il faut en tirer une leçon, de dire, j'ai commis des erreurs, j'ai pris des mauvais chemins, j'ai pris des mauvais sentiers, Seigneur, merci, tu m'as relevé, j'en tire maintenant une leçon. Donc, quoi que ce soit qui arrive, quelque chose qu'on n'a pas décidé, dont nous ne sommes pas responsables, Dieu nous bénit, et si on a fait des mauvais choix, et dont nous nous repentons, et dont nous demandons pardon, Dieu, il nous relève et nous bénit, et on en tire des leçons. On en tire une leçon spirituelle. On en tire quelque chose d'extraordinaire. Alors, pour certains peut-être qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne connaissent pas Dieu, c'est le moment de le rencontrer. Quand notre vie est à Dieu, parce que ma vie était à Dieu, j'étais accompagné dans tout ce processus, parce que ma vie était avec Dieu, Dieu m'a accompagné pendant que je descendais au fond dans la fosse. Dieu était avec moi dans la fosse. Et Dieu a veillé sur moi dans la fosse. Et il m'a protégé. Et s'il me fallait partir, s'il me fallait quitter quand même cette terre, je savais, comme la Bible dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc s'il me fallait quitter, s'il me fallait partir, je savais où j'allais. C'était pas la fin du voyage. Mais comme a dit un jour le chirurgien, il m'a dit, Monsieur Satori, celui qui était là en haut n'a pas voulu de vous, vous avez encore des choses à faire au milieu de nous. On a besoin de gens comme vous, disait le chirurgien. Et c'est pour ça que je suis encore là. Mais quoi que ce soit. Alors, oui, mon ami, si toi tu connais pas le Seigneur, c'est le moment de le rencontrer. C'est le moment de donner ta vie. Quand tu donnes ta vie à Dieu, il est celui qui change ta vie. Il est celui qui te prend dans tes souffrances. Il est celui qui te sort de tes souffrances. Il est celui qui sort la tête de l'eau. Tu es en train peut-être de couler. Mais le Seigneur, il va te sortir de l'eau. Il va te sortir de tes souffrances. Il va te sortir de tes difficultés. Les pires que tu peux y avoir pour lui. Rien n'est impossible et il va te donner une vie nouvelle. Il va changer ta vie, il va transformer ta vie parce que tu lui as donné ton cœur. Vous vous rappelez de ce bandit à la croix? Il y en a deux, un qui a insulté Jésus et un autre qui a dit, Seigneur, toi tu n'as rien fait. Toi, tu n'as rien fait de mal. Moi, oui, c'est ma place, c'est mes conséquences de mes actes. Moi, je le mérite. Et elle dit, Jésus, quand tu reviendras, pense à moi quand tu reviendras dans ton règne. Et Jésus l'a regardé, lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Non, pas au birkatoire, au paradis. Au paradis. Cet homme a été sauvé parce qu'il a reconnu le Christ. Alors, mon ami, si tu veux que Dieu change ta vie, si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, qu'il prenne ta vie en main, qu'il commence à diriger, qu'il commence à nettoyer tout ce qui est autour de toi, qu'il commence à te laver, à t'épurer, qu'il donne un sens à ta vie pour que vraiment tu vois les merveilles de Dieu, c'est le moment de lui donner ta vie. La Bible, Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas en moi, il y a un jugement. Et si un jugement, c'est pas la faute de Dieu. Quand un pompier dit à un monsieur, sortez monsieur de la maison elle brûle, il est là pour le sauver. Mais si l'homme ne veut pas, il périra. Il périra. Et Jésus le dit, la Bible dit bien, car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le Seigneur, il est venu pour te sortir, effectivement, de cet enfer que tu vis. Alors c'est le moment, effectivement, mon ami, si toi tu ne connais pas le Seigneur, si tu ne connais pas de Dieu, dire Seigneur, entre dans ma vie, s'il te plaît, viens changer ma vie. Regarde mes souffrances, prends mes souffrances, restaure-moi, ressuscite-moi Seigneur, interviens dans ma vie, sauve-moi, prends tout ça en main Seigneur, donne un sens à ma vie. Et Jésus dit, il te dira, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis, si t'arrives quoi que ce soit. Amen. Alléluia, voilà ce que le Seigneur veut faire. Alors mes amis, peut-être toi qui ne connais pas le Seigneur, c'est le moment de donner ton cœur au Seigneur. Toi peut-être qui connais le Seigneur, sache quoi que ce soit, l'épreuve qu'il y a, Jésus est avec toi. Ne l'abandonne pas. Il est avec toi dans l'épreuve, comme il a été avec Joseph, il dit, et l'Éternel fut avec Joseph. et l'Éternel sera avec toi dans l'épreuve. Avec toi. Et il te gardera, il te fortifiera, il te soutiendra. Surtout dans ces derniers temps, c'est le temps de s'accrocher. C'est le temps de se tourner davantage vers le Seigneur. Là, tout ce qu'on voit autour, avec Israël, ça nous parle. Israël est l'horloge du monde qui nous avertit, qui nous prévient que les temps s'accélèrent, que le processus s'accélère. Et non pas de dire, oh, on a encore le temps. Vous risquez d'être drôlement surpris si on pense ça. Amen. Voilà. On va peut-être prendre un petit temps de prière, si vous voulez bien. Alléluia. Alléluia, Jésus, merci. Alors, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais qui veut donner son cœur au Seigneur, s'il y a quelqu'un qui veut pouvoir dire, Jésus, écoute, je vais te confier ma vie qui est chaotique, ma vie de souffrance, je suis désespéré, je suis au plus profond, je suis au bord du suicide. Alors, Jésus, viens à mon secours. S'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur, qui ne le connaît pas, je lui demande simplement de lever sa main là où il est, afin qu'il donne sa vie au Seigneur, et que vraiment, bien le Seigneur le bénisse. Et que le Seigneur le bénisse. Et s'il y a des frères et sœurs qui ont vécu des difficultés, et qui quelque part ont reculé, qui quelque part ont pris des distances, eh bien, je vous demande aussi de lever votre main, de dire « Seigneur, comme tout à nouveau, je veux m'engager avec toi. Je ne veux pas désespérer. Comme tout à nouveau, Seigneur, oui, je veux continuer le chemin avec toi. Je veux me confier, Seigneur, à toi. Dans les situations que je vis, je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance. » Alléluia. Seigneur, merci parce que tu veux bénir chacun de mes frères et sœurs qui sont ici. Tu veux bénir chacune de ces personnes. Tu veux poser ta main. Et je te prie, Seigneur, que ce message puisse avoir un impact dans les cœurs. Que mes frères et sœurs puissent réaliser combien tu es présent dans leur cheminement, dans leur voyage, ici-bas, dans leur lieu de pèlerinage. Combien tu es présent au milieu d'eux et tu prends soin d'eux et tu veilles sur eux et tu les gardes et tu les protèges, Jésus. Seigneur, oui, bénis mes frères et sœurs. Bénis-les chacun, fortifie la foi des uns et des autres, fortifie la foi, fortifie ceux qui sont découragés, fortifie ceux qui sont abattus, Seigneur, fortifie-les, Seigneur, relève-les, visite-les comme tout à nouveau, remplis-les du Saint-Esprit comme tout à nouveau, Seigneur, je te prie pour ça. Merci Jésus, merci d'agir, Père, dans le beau nom de Jésus, que ta gloire se répande sur chacun d'entre eux, Seigneur. Merci Jésus, à ton nom soit la gloire. À ton nom soit la puissance, Jésus. Amen. 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 Alice, qui vous encourage, encore une fois, merci pour vos prières. Et mon épouse aussi vous dit merci, mon fils aussi. Parce que je sais que mon fils aussi, il avait jeûné, il avait prié. Il avait reçu aussi, lui, une parole du Seigneur. Il dit, lève-toi et marche. Il avait compris qu'il allait aussi retrouver son petit papa. Hein? Voilà. Donc, merci. Donc, mes frères et mes sœurs, continuez à prier. Donnez de l'importance à la prière. Dieu entend la prière. La preuve, elle est là. Vous l'avez là. Dieu entend la prière. Même si ça tarde, elle n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Croyez-moi. Et il va répondre et il va le faire. Parce que c'est des prières selon sa volonté. Quand on prie que le Seigneur relève un fer, c'est la volonté de Dieu. Vous savez, il n'y a pas longtemps, moi, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je te prie. Et souvent, je prie. Et le Seigneur, des fois, il permet qu'on entende, qu'on voit l'exaucement de la prière pour nous encourager. Et je priais, et je prie souvent, Seigneur, tu vois, combien de frères et sœurs dans le monde sont tombés? Combien de frères et sœurs ont perdu la foi? Combien de frères et de mes sœurs se sont détournés de toi parce qu'ils se sont fait piéger par l'ennemi, par le diable? Parce qu'ils ont été séduits, Seigneur, fais grâce, fais grâce. Envoie un renouveau de ton esprit, Seigneur. Fais grâce, ramène-les à toi. Permets une situation, une circonstance, Seigneur, pour qu'ils se tournent de nouveau vers toi, pour qu'ils bougent. Et il n'y a pas longtemps, Madame Reckenbach m'a appelé, m'a dit, écoutez, frère Satori, il y a un frère qui souffre. Est-ce que vous pouvez prendre contact avec lui ? Elle m'a donné le numéro de téléphone. Donc c'est un frère de l'église, pas d'ici, à Mulhouse, de l'église, je crois, oui, de Porte Ouverte. Et donc, il m'a téléphoné, et ce frère, je l'ai quand même appelé, et il m'a expliqué sa situation. Donc c'est un frère, c'est vrai, il y en a plein comme ça, mais que Dieu a permis que je rencontre, qui est depuis 20 ans dans la souffrance, parce qu'il s'est détourné de Dieu, il est tombé, il a été séduit, et il est tombé très très bas, au point que son esprit a été tourmenté, mais tourmenté, et demandé la mort. Il a rencontré Christ dans sa vie, il a été sauvé, mais à un moment, il s'est détourné. Et ce frère, on a prié ensemble, et ce frère, peu de temps après, il me rappelle et me dit, frère Satori, je dis quoi? Quand vous avez prié pour moi, quand vous avez imposé les mains, j'ai touché le ciel. Ça fait 20 ans que j'ai pas vécu une telle onction dans ma vie. Dieu avait entendu ma prière et il a permis que je rencontre cet homme. Bien sûr que je continue à accompagner, qui va toujours dans la même église. Je n'ai pas dit de venir chez nous, je lui ai dit de rester fidèle à son église. Mais voilà, que je continue à accompagner, il vit des choses avec le Seigneur. Bien sûr qu'il y a maintenant tout un travail de restauration à faire, parce que frère, quand même, il y a le passé qui vient, il y a des souffrances, comme j'ai expliqué à ce frère, il y a eu des plaies profondes. Laissez le temps au Seigneur maintenant de guérir, de mettre le pansement, de mettre l'huile, le Saint-Esprit, qu'il faut tout doucement guérir, qu'il faut du temps. Et souvent, le Seigneur, il le visite. Alors, c'est pour ça que je dis, la prière, elle est très importante. Priez, mes frères et sœurs. Priez, le Seigneur, il vous entend. Priez pour ceux qui sont perdus. Priez pour les âmes qui sont perdues. Et vous verrez que Dieu va exaucer votre prière parce qu'il vous permettra des rencontres et vous direz, Seigneur, regarde, tu m'as entendu. La preuve, regarde, il est là, devant moi. Et je veux continuer à prier. Et ça m'a motivé encore à prier davantage et davantage. Alors prions. La prière, c'est une puissance, comme je vous l'ai dit. Des personnes de toute nationalité jusqu'en Afrique, ils ont prié pour ceux qui étaient touchés par le Covid. J'ai appris que des frères africains avaient prié pour moi. Au Guinée, au Congo, partout avaient prié pour moi. Et ces frères et sœurs, je les ai vus dans mon rêve, quand j'étais en train d'agonir, une multitude de nations autour de moi qui me protégeait et qui est là pour me protéger et qui a permis que je sois là. La prière. Alors je vous encourage, mes frères et sœurs, la prière c'est une puissance, croyez-moi. C'est une puissance extraordinaire. Et dont Dieu va se servir pour toucher des cœurs et des vies. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et puis à l'occasion, de nouveau. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Ça va, j'ai pas été trop long. Hein. Voilà. Merci.